Il m'arrive quand même de temps en temps d'aller flâner sur Internet et d'aller regarder des vidéos de gens qui racontent plus ou moins des trucs intéressants. Et en tout cas, quand je cherche sur un sujet quelque chose, le critère qui me permet de regarder ou d'écouter cette personne, c'est de voir est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes déjà qui ont regardé. C'est pas un bon critère. Et de voir si elle est intéressante. Et de voir si la vidéo n'est pas trop pourrie en qualité. C'est des critères un peu bizarres, assez subjectifs. Et en fait, je m'intéresse avant tout à la forme et pas au fond de ce que dit la personne. Et en même temps, comment m'intéresser au fond de ce que me dit la personne? Comment lui faire confiance? Jean, un évangéliste, il a écrit les évangiles, il a aussi écrit des épîtres que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. Donc après la mort du Christ, Jean, dans ses épîtres, écrit à des chrétiens qui sont troublés. Bon d'accord, je vais vous raconter pourquoi ils sont troublés. Je sais que vous aimez un peu les potes, hein, ça, je vais vous raconter un peu une histoire. Donc dans cette église, il y avait des personnes qui venaient enseigner. Ils venaient enseigner un peu bizarrement. En tout cas, ils remettaient en cause ce que les chrétiens savaient. Jusque-là, c'est bien. Mais pas dans un bon sens. Ces personnes mettaient un peu le bazar dans les églises. Et Jean a voulu rassurer ces chrétiens. Il a voulu les rassurer sur leur identité chrétienne, ce en quoi ils croient, qui ils sont en Christ. Il a voulu les rassurer en leur disant que ces personnes, au final, n'étaient pas des leurs, n'étaient pas des chrétiens. Il leur écrit cet épître. Il leur dit, je vous écris tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez la foi au nom du Fils de Dieu. C'est vous, les vrais chrétiens. Attention à qui vous enseigne. Et à travers de cette épître, la première épître de Jean, il va proposer trois critères, trois jalons, trois marqueurs pour essayer de comprendre si ces enseignants sont capables. En tout cas, on doit écouter ce qu'ils racontent. Le premier, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Le deuxième jalon, critère, c'est l'amour fraternel, l'amour que les chrétiens portent les uns pour les autres. Et le troisième critère que Jean propose, c'est la foi en Jésus, la foi au Christ incarné en tant qu'homme venu sur terre. Trois critères qui proposent trois jalons, trois marqueurs. Et ce matin, je vous propose de regarder le premier. On regardera les deux. Le deuxième et le troisième, bien plus tard, dans une autre prédication. Mais là, ce matin, on va s'intéresser au premier. Et nous lirons dans l'épître de Jean, du chapitre 1, des versets 1 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Il est assez court, le chapitre 1, rassurez-vous. Je commence la lecture. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons entendu, vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus-Christ, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un texte qui paraît assez clair, enfin qui est assez clair et on le comprend assez facilement. Il y a quelques éléments un peu de logique que Jean utilise, mais assez clair. Jean n'est pas là pour, je le rappelle, parler de concepts, de parler de choses qui plaindraient, mais là, dans le concret, comment être certain de notre identité? Comment être certain de ce que nous croyons et comment faire confiance aux personnes? Il part du postulat. Dieu est lumière et il n'y a pas de trace de ténèbres en lui. C'est son point de base. Et à partir de là, si vous regardez la structure du texte, il va proposer trois cas. Le premier cas, c'est au verset 6. Et les cas commencent à chaque fois par « si ». « Si, machin, machin, alors ». Et il le fait au verset 6, 8 et 10. Ces trois cas proviendraient à dire que Dieu a des traces de ténèbres en lui, que Dieu est menteur, que Dieu n'est pas lumière. Et Jean va utiliser la logique. Je reprends verset 6. Le premier cas, c'est vivre dans les ténèbres et dire être en communion avec Dieu. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. L'idée de communion dans la Bible, en tout cas dans l'évangile, dans l'épître de Jean, c'est l'idée de partager, d'avoir part au Christ, d'être en communion avec Christ, d'être lié à Christ. Ce n'est pas la communion liée à l'argent, le partage comme la générosité, c'est partager avec Christ, être uni avec lui. Et Jean évoque deux états assez séparés, deux chemins de vie. On pourrait même penser que c'est deux mondes dans un langage populaire. Il y a deux mondes qui les séparent. Celui des ténèbres et celui de la lumière, ou encore celui de la vérité ou celui du mensonge. Il rappelle que Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres. Il affirme de manière assez radicale que Dieu ne peut pas être avec le péché. Comment Dieu, qui n'a aucune trace de ténèbres en lui, peut côtoyer des personnes qui seraient dans le péché? Il est en train de dire aux chrétiens, mais c'est pas du tout logique. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace. Il n'arrivera pas à côtoyer. S'il côtoie des personnes, il va être entaché quelque part par ces ténèbres. Dieu ne peut pas côtoyer le mal. Dieu ne peut pas voir le mal. Dieu a horreur du mal. Ce n'est pas logique. Si nous prétendons être en communion avec Dieu et que nous vivions dans les ténèbres, alors nous faisons passer pour Dieu pour un menteur. Et nous ne sommes pas avec Dieu. Jean, dans son évangile cette fois-ci, le rappelle et affirme que le diable est le père du mensonge, au chapitre 8, 44. Et si une personne dit cela, en fait, elle se trompe de père. Son Seigneur, c'est qui? C'est le diable. Ce n'est pas Jésus-Christ, Dieu le Père. C'est assez dur à entendre, peut-être pour des chrétiens à l'époque, et c'est aussi pour nous assez dur à entendre. On peut se demander, mais à quoi Jean fait-il référence quand il parle de péché? Quand Jean parle à l'époque, certaines personnes pensaient que le corps charnel n'était qu'une enveloppe pour l'âme, l'esprit. Et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec le corps parce que notre esprit était inviolable parce que nous étions en Christ. Et leur corps ne pouvait pas contaminer leur identité chrétienne. Et Jean est en train de leur dire, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas possible. Vous êtes une personne entière. Et le Christ est venu en chair, et c'est ce qu'on verra en troisième point. Il est venu avec un corps. Il n'est pas venu planer sur des nuages. Il est venu s'incarner. D'autres pensaient aussi que parce qu'ils avaient atteint une maturité spirituelle, ils ne pouvaient pas se souiller. C'était impossible pour eux de pécher. Ils pensaient qu'on pourrait être juste sans quelque part pratiquer une sorte de justice. Alors, c'est bien sûr, ces personnes n'étaient pas dans l'excès hein, de la pratique du péché. Ce n'est pas les gens qui allaient faire des orgies, je ne sais pas quoi, qui allaient tuer des personnes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit seulement qu'ils vivaient normalement, mais sans s'occuper de, quelque part, les effets qu'ils pouvaient produire par leurs actions. Ça peut nous paraître un peu extrême de penser comme ça. Mais Jean nous appelle aussi à être prudents pour nous. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous accommoder avec notre morale au péché ? En prétendant être en communion avec Dieu, en faisant une gymnastique intellectuelle pour faire passer, quelque part, notre volonté de faire cette chose, on fait une gymnastique intellectuelle pour pouvoir faire en sorte qu'on reste en phase avec Dieu, avec ce qu'il nous demande, avec qui il est. On trouve des arguments qui nous plaisent moralement. Et on va trouver des arguments bibliques, bien entendu. Hein. Parce que, quand même, si on n'a pas d'arguments bibliques en tant qu'évangélique, c'est quand même problématique. Et spontanément, je pense à la maîtrise de soi. Vous verrez que quand je parle de trucs spontanés, c'est forcément des trucs qui me touchent. Se mettre facilement en colère, s'énerver facilement, s'agacer rapidement. Et en fait, on se dit, mais ce n'est pas si grave parce que c'est cette personne qui m'a agacé. Quand même. Je ne suis pas coupable, c'est cette personne qui m'a provoqué. Et on peut s'accommoder de certaines choses comme ça. Les choix éthiques, nos choix éthiques, ce que nous faisons, ou même sans avoir de choix concrets à faire, comment nous pensons nos choix. Et je pense que le problème, avec les problèmes éthiques, avec les discussions liées à l'éthique, on peut très facilement s'accommoder ou faire des gymnastiques intellectuelles pour pouvoir faire dire à Dieu ce que l'on veut. Et je pense que, réellement, pour nous, ça peut être très facile. Très facile de partir dans des théories, parce qu'en fait, c'est ce qu'on aimerait que Dieu pense. Et on fait des efforts intellectuels. Et au final, tout ça pour pouvoir pratiquer et vivre dans le péché, implicitement. Dans ce cas-là, nous sommes des menteurs. Je fais juste un rappel. Jean, il ne parle pas des péchés que nous essayons de combattre au quotidien. Il parle des péchés que nous souhaitons pratiquer au quotidien. Il ne parle pas des péchés que nous essayons de combattre au quotidien. Le deuxième cas, verset 8. Nier ne jamais pécher. Dire qu'on ne pratique jamais le péché. Si nous prétendons d'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Et plus tard, dans chapitre 2, à partir du verset 4, il parlera que le péché, c'est la violation de la loi. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Et il est question de la loi morale, des commandements, et on pourrait trouver un beau sommaire dans le sermon sur la montagne. Parmi eux, on va trouver les deux commandements, souvent que Jésus rappelle. Aime Dieu. Aime Dieu, c'est pratiquer. Aimer Dieu, Jean le rappellera, c'est pratiquer ses commandements. Aime Dieu et aime ton prochain. Et bon. À quel moment un chrétien peut penser ne pas pécher ? Il ne pratique pas le péché. À un certain moment de ma vie chrétienne, une fois que je m'étais débarrassé des gros péchés, quelque part, que je voyais dans ma vie, j'étais plutôt satisfait. J'étais plutôt bien là, j'étais à l'aise. Et quelque part, je me satisfaisais de ça. Je croyais, quelque part, n'être coupable de pas plus de péchés. Dieu avait débarrassé les gros que je voyais. Et je ne voyais pas ce que je devais encore travailler. Je n'avais pas l'impression encore de pécher. Je me croyais arrivé. Alors que normalement, c'est une marche qui continue. Et même Paul rappelle sans cesse qu'il n'a jamais fini sa course. Sans cesse, jamais complètement saint, parfait. À d'autres moments, on peut se sentir moins pécheur, en tout cas, sans péché, quand on se compare aux autres. Que les autres sont forcément moins bons que nous. Et les autres, en plus, si on sait qu'ils ne connaissent pas Christ, parce qu'on se dit, bon, eux, ils ne sont pas déclarés justes par Christ, donc apparemment, on peut se sentir supérieur, sans péché. Mais pour cela, je vous invite à relire et relire la Bible. Et vous verrez que toute l'histoire biblique s'est faite pour nous rappeler que nous sommes loin de Dieu à cause de notre désobéissance et que nous ne souhaitons pas être en relation avec Dieu. On peut donner aussi l'impression que nous ne sommes pas pécheurs. Je vous donne un exemple. Un exemple sur les groupes de maison. Une situation fictive, bien sûr. Cette semaine, c'était le groupe de maison. On a pris un bon temps à partager autour de la parole de Dieu. On a appris beaucoup de choses de Dieu. On arrive au moment du partage des sujets de prière, de notre relation avec Dieu, où on veut partager. Jean-Marc dit que tout va bien. Tout va bien avec le Seigneur, pas de problème. Deux semaines après, c'est encore le groupe de maison, où à nouveau, on passe un bon temps autour de la parole de Dieu. On passe aux prières, et pour Jean-Marc, ça va toujours bien. L'année se poursuit, toujours des bons temps autour de la parole de Dieu, parce qu'Éric nous prépare des bons supports. On arrive au temps de prière, jamais de soucis, tout va bien. Est-ce que Jean-Marc est parfait? Est-ce qu'il est sans péché? Quelle est l'image qu'il nous renvoie d'un chrétien? Un chrétien qui dit ne pas être pécheur, c'est problématique. Sans aller à dire qu'il n'est pas chrétien, en tout cas, ça véhicule, ça renvoie une image qu'un chrétien est sans péché, qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu, qui n'a pas besoin du pardon de Dieu. Alors que c'est quoi l'Église? L'Église, les groupes de maison. L'Église, c'est le lieu qui accueille des pécheurs. L'Église est un hôpital pour les pécheurs, comme le disait un frère cette semaine, et non un club pour les saints. C'est donc normal de partager ses soucis. C'est donc normal de prier les uns pour les autres. C'est donc normal de se dire pécheur, même si ce n'est pas évident à dire. Quelque part, c'est nous le sommes comme ça. Et le cas numéro 3, toujours dans le péché, ça serait des gens qui prétendraient ne pas être pécheurs du tout. Par nature, je suis parfait. Je suis né parfait, je reste parfait. Et encore une fois, dans ce cas-là, je vous invite à relire la Bible. Il nous rappelle que le péché, est universel. Tout le monde est soumis au péché. Et l'évangile qu'on peut lire, c'est un évangile de salut. Donc, logiquement, s'il nous sauve, c'est que nous sommes pécheurs. Si c'est que nous pensons que nous sommes sans péché, que nous ne pratiquons pas le péché. Alors nous faisons de Dieu un menteur. Et la vérité n'est pas en nous. Je le rappelle encore une fois, il n'est pas question des péchés avec lesquels on lutte, mais avec les péchés avec lesquels on s'adonne. Ou en tout cas, on aime pratiquer et qu'on ne veut pas s'en éloigner. Verset 9, vous avez vu, il y a des si, et après il y a des choses à souvent après. Verset 9, mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si toutefois, il arrive à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean n'émet pas juste une hypothèse. Il ne dit pas que potentiellement, si vous demandez à Dieu, s'il est de bonne humeur, si tout s'est bien passé pour lui, il vous pardonnera. Non. Jean affirme clairement que celui qui reconnaît ses péchés. Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos péchés. Tous ceux qui reconnaissent leurs péchés. John Stott était un chrétien qui a vécu au XXe siècle, un peu plus tard même, début du XXIe. En tout cas, il était chrétien en Angleterre, un théologien. Il écrit que le christianisme est la seule religion qui, tout en s'insinuant que Dieu est lumière, prend au sérieux le péché. Et en même temps, offre une solution moralement satisfaisante au problème du péché. Le moyen d'être en communion avec Dieu, ce n'est pas de nier le péché ou ses effets, mais de confesser nos péchés et de nous approprier avec reconnaissance ce que Dieu a préparé pour notre purification. C'est toute la puissance de l'Évangile, de reconnaître pleinement qui nous sommes et de reconnaître pleinement que Dieu peut nous pardonner. Le baptême, on a parlé d'un peu de baptême tout à l'heure, c'est un signe de ça. C'est le signe par excellence que nous reconnaissions notre péché. La personne va reconnaître son état de pécheur. La personne va reconnaître qu'elle marchait dans les ténèbres. Elle va reconnaître avoir besoin du sang du Christ pour pouvoir être en communion à nouveau avec le Père qui est lumière. Et par conséquent, cette personne va vouloir marcher en nouveauté de vie, de se débarrasser de tout ce qui le liait aux ténèbres. Et si on poursuit la pensée de Jean, si on se sait pécheur, que Christ permet de nous purifier et permet de rétablir la relation avec Dieu le Père, et que nous refusions ce baptême, alors, je vous invite à réfléchir à votre vie, à votre volonté de vous engager pleinement avec lui, à vouloir être en communion avec lui. Jésus, dans les évangiles, il parle à un homme, un jeune homme, qui voulait le suivre, il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Qu'est-ce qui est le plus important? Et Jésus, tout content, lui dit, avec plaisir, suis-moi, observe tous les commandements, et ça ira. Le gars lui dit, ouais, j'ai fait. Jésus dit, continue. Donne-toi entièrement, vends tout ce que tu as, donne tout ce qui peut te lier à cette terre et qui peut te lier avant moi, et suis-moi. Mais l'homme ne le fait pas et s'en va tout triste. Matthieu 19, 16 à 22. Êtes-vous prêt à tout lâcher pour le Christ, le Seigneur? La Sainte Cène comprendra après. Elle est faite aussi pour ça, pour des chrétiens, pour des personnes qui reconnaissent être dépendants de Christ, des personnes pardonnées par le Christ, renouvellent leur engagement en prenant la Cène, en prenant le repas du Seigneur. La question, ce n'est pas est-ce que je peux la prendre, mais c'est et pourquoi je ne la prendrai pas? Pourquoi je ne voudrais pas m'engager dans cette relation ou renouveler mon engagement avec Christ? Refuser la scène, c'est refuser que Christ vous pardonne. C'est refuser dépendre du Christ, c'est refuser confesser vos péchés au Christ pour qu'il vous aide à avancer. Je rappelle, les chrétiens, l'Église, est un hôpital de pécheurs. Si tout va bien, si vous n'avez pas besoin du Christ, pas la peine de prendre la scène. La scène nous rappelle que nous avons besoin de lui pour avancer. Nous avons besoin de son esprit pour avancer en nouveauté de vie. Jean nous invite à notre tour à être clairs sur qui nous suivons et sur qui nous sommes. L'apôtre n'est pas là, nous appelle pas à juger les autres dans ce discours, mais plutôt à veiller sur notre communion avec le Père, à veiller sur nous-mêmes, veiller à nos péchés et de continuer à lui rendre gloire, lui qui est lumière et qui n'a pas de trace de ténèbres en lui. Attention, nous rappelle Jean, à qui vous suivez, qui vous écoutez. Les paroles des personnes ne sont pas suffisantes pour les suivre. C'est ce que Jésus reprochera aux pharisiens. Vous parlez beaucoup, mais votre vie n'est pas en cohérence. Votre vie doit refléter ce que vous dites. Et même Paul rappellera aux Thessaloniciens, par exemple, suivez-moi et regardez comment j'ai vécu parmi vous. Ce n'est pas juste écouter mes enseignements. C'est écoutez-moi et regardez comment j'ai agi parmi vous, comment je me suis comporté. Et il rappelle ça aux Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, et en même temps, il va leur dire, à votre tour, vous avez été, c'est pas vous serez, vous avez déjà été des modèles par votre action, par qui vous êtes, pour les autres chrétiens de la Macédoine et de l'Achaïe. Le problème que je vois fréquemment, c'est qu'il y a tellement de sites internet qui nous invitent à grandir notre foi. Et nous-mêmes, en tant qu'Église, nous enregistrons les prédications et nous les diffusons sur Internet. N'importe qui peut les prendre. Et quelque part, on pourrait dire, on participe aussi à ce que les gens écoutent tout sans discernement. Comment discerner, nous rappelle Jean. Comment va-t-on discerner ? Jean rappelle que notre pratique doit refléter ce que nous disons. Un des critères que Jean propose, c'est que nos pratiques reflètent ce que nous disons. Comment faire confiance ? Soit c'est des personnes qu'on connaît, on connaît leurs pratiques, et du coup on va les écouter. On connaît leurs pratiques face aux commandements de Dieu. Est-ce qu'ils respectent les commandements ? Et on peut dire tout ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils respectent les commandements ? Est-ce qu'ils sont avec Dieu ? Ça, c'est un critère que Jean nous propose. Jean nous rappelle, attention à vous-même. Attention à vous-même, veillez sur vous. Attention à ne pas croire que vous êtes sans péché. N'ayons plus besoin du pardon de Dieu, n'ayons plus besoin du sacrifice du Christ. Attention aussi à ne pas minimiser le péché. Le péché est là, il est grave. Ne minimisez pas votre péché. Il ne faut pas minimiser aussi celui des frères et sœurs. Nous sommes des pécheurs graciés, déclarés justes par le sang du Christ. La scène est le bon moment pour se rappeler ensemble l'Évangile. Dans le texte qui est lu pendant la scène, c'est « Vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. » Ok, il n'y a que des chrétiens dans la salle. J'annonce la mort de Jésus à des chrétiens. Ouais. On s'annonce mutuellement la mort du Christ. On s'annonce mutuellement que nous sommes dépendants de Christ, que nous avons besoin d'être graciés toujours par Christ. Nous avons besoin de nous confesser devant le Christ. Paul, aux Thessaloniciens, prie pour eux. Il leur dit ceci au verset 16 du chapitre 2. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu, notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce un réconfort éternel et une bonne espérance, remplisse vos cœurs de courage, vous accorde de pratiquer toujours le bien, en acte et en parole. Ma prière pour nous, que nous puissions pratiquer toujours le bien, en acte et en parole. Je vous invite à un temps de silence, après quoi nous partagerons le repas du Seigneur.